Irma Grézeux, la hyène d'Auschwitz, épisode 4, mourir à 22 ans. Alain Lefkovitch, Rafik Zénine. Le 17 novembre 1945, le verdict tombe pour Irma Grézeux. À 22 ans, la hyène d'Auschwitz, la bête de Belsen, est condamnée à mort par pendaison.
À sa condamnation, elle réagit de manière impassible, comme tout au long du procès. Elle ne perd jamais son calme, elle ne laisse transparaître aucun sentiment. Certains témoignages, qu'on ne peut pas recouper, certains témoins disent qu'elle a beaucoup pleuré dans sa cellule. Elle avait été en contact à certains instants du procès avec sa sœur. Elles avaient échangé une correspondance et évidemment, elle espérait ne pas être condamnée à mort et pouvoir, à l'issue de sa condamnation, repartir vers une nouvelle vie. Tout ceci ne sera évidemment pas possible, mais elle accueille ça sans rien laisser transparaître, et même au moment de son exécution, quand le bourreau vient la chercher, qui la conduit à la potence, ne laisse transparaître aucune émotion particulière.
Comme le raconte Barbara Netschek dans son ouvrage intitulé « Femme bourreau », Irma Grézeux va passer un mois en prison avant l'exécution de la sentence. Parmi les lettres qu'elle rédige, une est adressée à son père, qui l'a pourtant rejetée. Le 8 décembre 1945, elle lui écrit « Si le destin a décidé de m'arracher à la vie à un aussi jeune âge, sois assurée d'une chose. Ta fille partira telle que tu l'as toujours connue, une Allemande courageuse, innocente et toujours fière. » Tu ne dois pas avoir honte de moi, car j'ai rempli de manière fidèle mon devoir pour la patrie.
Et Irma Grézeux, comme c'était la plus jeune, elle se démarquait aussi par sa beauté. C'était en quelque sorte la vedette du procès. Et donc la presse de l'époque l'a affublée de tout un tas de surnoms. La bête de Belsen. Et elle-même, elle soignait son apparence à chaque séance. Elle était consciente d'être au milieu de l'attention. Et on s'est comme ça focalisé sur quelques figures seulement, de femmes notamment, à qui on a attribué toutes les horreurs. Et du coup, on en a fait des figures un peu à part, des vrais monstres. Alors que c'était des femmes, au départ, normales, qui ont été conditionnées par un système. Et du coup, on en a oublié les autres qui pourtant ont fait les mêmes choses, qui sont coupables aussi au même titre.
C'est vrai qu'il y a eu tout un moment où surtout les journalistes et les médias se sont emparés de ces cas-là pour les monter en épingle, pour en faire le symbole du mal absolu.
Liliane Candel, sociologue et essayiste.
Ce qui permettait quand même d'innocenter tous les autres et toutes les autres. Donc effectivement, Irma Grézeux et Johanna Landensberg, il y a eu quelques cas célèbres de gardiennes de camp. De toute façon, elles ont transgressé la barrière du genre. C'est-à-dire que, précisément, elles sont sorties des trois cas. Kinder, Kirche, Köchen. Pardon, excusez-moi. Les enfants, l'église, la cuisine. Leur boulot, c'est la maternité et le foyer. Celles-là, non. Elles travaillent, elles continuent à travailler. Et en plus, elles font ce qui est considéré comme un travail d'homme. Donc, elles ont droit à tous les stéréotypes négatifs. Je ne suis pas en train de la défendre, mais c'est bien ce qui se passe, et ça se passe d'ailleurs pour beaucoup d'autres aussi. C'est que elles sont des femmes, elles se conduisent en gros comme leurs camarades SS ou... Mais du coup, on leur pardonne beaucoup moins parce que ça n'est pas dans leur guillemets nature. Oui, elles ont transgressé quelque chose. Et donc, effectivement, au stéréotype de la mère parfaite, a répondu celui de la sorcière. Ben, Grèze et quelques autres étaient des sorcières, donc elles incarnaient tout le mal possible, alors que, après tout, que les hommes soient mauvais, c'est normal. Ça ne provoquait pas tout à fait le même scandale.
Voilà, elle a été, après la guerre, beaucoup mise en avant par notamment des groupes néo-nazis.
Didier Chauvet.
Qui lui ont voué une sorte de culte, en raison, bien entendu, de son appartenance à la SS, mais surtout, je pense, du stoïcisme dont elle a fait preuve lors du procès, et comme je vous le disais, également au moment de sa pendaison. Alors, le culte d'Irma Grèze par des groupes néo-nazis a posé des problèmes aux autorités allemandes, puisqu'elles ont été contraintes en 1986 de déplacer sa sépulture vers un lieu inconnu afin justement d'interrompre les divers pèlerinages des groupes néo-nazis.
Mais alors, comment expliquer le culte qu'on lui a voué après sa mort ?
Je ne peux pas l'expliquer spécialement. Je ne sais pas, parce que c'était quelqu'un qui n'avait aucune autorité au niveau hiérarchique. C'était une surveillante SS qui n'était même pas la plus gradée. C'est son parcours, je pense que c'est un ensemble de choses, c'est sa jeunesse, c'est le fait qu'elle était dans les unités SS, tout ce stoïcisme dont elle a fait preuve au moment du procès et de l'exécution. Je pense que c'est un tout. Après, pourquoi certaines personnes passent à la postérité et pas d'autres, c'est parfois, on ne sait pas pourquoi.
Le fait est que ces femmes-là, et pour Irma Grèze, je le sais, deviennent aussi un petit peu les martyrs de la scène néo-nazie allemande après-guerre. Et il y a des pèlerinages sur sa tombe qui est à Hameln. C'est la prison dans laquelle elle a été exécutée. Et en fait, dans les années 80, les autorités décident de se débarrasser de sa tombe pour éviter ce genre de choses. Donc elle a eu un rôle un peu spécial, oui.
Comment ça, des pèlerinages sur sa tombe ?
Comme il peut y avoir des pèlerinages, je ne sais pas, sur la tombe de Mussolini, mais il y a des néo-nazis allemands qui se retrouvaient sur la tombe d'Irma Grèze jusque dans les années 80, avant que les autorités ne décident de liquider la tombe, oui.
Donc il y a des pèlerinages sur la tombe d'Irma Grèze, qui est finalement un fusible, mais c'est moins qu'un fusible, dans l'aune de ce que c'est que la machinerie nazie. Irma Grèze, c'est pas grand-chose, en fait.
Non, c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être aussi du fait que c'est une femme. C'est peut-être du fait que c'était une femme. Oui, honnêtement, je ne sais pas pourquoi les néo-nazis ont eu pitié d'elle particulièrement. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'autres lieux de pèlerinage en Allemagne. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est elle. Parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était aussi jusqu'à la fin, c'était quand même quelqu'un qui en tout cas disait croire en ce qu'elle a fait, parce qu'elle a toujours su rester fidèle à ses principes, voilà ce genre de choses. Et puis il y a des témoins aussi qui rapportent qu'elle a chanté des chants nazis jusqu'à la veille de son exécution. Voilà, mais il n'y en a pas des femmes en fait qui ont montré des remords. Ouais, qui ont montré le moindre remords, qui seraient excusés auprès des victimes. Il n'y en a aucune qui exprime des remords. Elles trouvent ça plutôt injuste. Elles trouvent ça injuste ce qui leur arrive. Elles disent elles-mêmes qu'elles étaient, comme les prisonnières, pas libres de leurs actes. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Qu'elles ne pouvaient pas... elles n'avaient pas de liberté de mouvement. Et aussi qu'elles n'étaient qu'un petit rouage dans le système. Et que c'était les hommes et les SS. Il y en a une qui dit, c'est la SS que je détestais par ailleurs, qui décidait de tout. Je n'étais qu'un petit rouage.
Ce Selon une légende populaire, le fantôme d'Irma Greze hante depuis la fin de la guerre un bâtiment du site de l'ancien camp de Bergen-Belsen. Des chercheurs curieux obtinrent en 1992 l'autorisation de passer la nuit sur place afin de constater le phénomène. Mais rien ne se produisit. C'était Irma Greze, la hyène d'Auschwitz, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.